Gloire à Dieu. On va continuer notre petite étude ce soir dans Éphésiens. On est rendu dans le chapitre 4 à partir du verset 11. On va voir là-dedans ce soir qui est un petit peu la suite de la semaine passée. Parce que voilà 2 semaines. Quand j'en ai parlé au dernier message en Éphésiens, on a parlé que Jésus étant monté, il a fait des dons aux hommes. Mais il a commencé par dire, il a emmené des captifs. Ça, on a vu ça dans l'étude, la dernière étude, que Jésus, en ressuscitant, il a emmené des captifs du séjour des morts, puis il les a emmenés devant le trône dans le ciel. J'ai tout expliqué ça, mais là, à partir de ce même verset-là, ça disait aussi que Jésus a fait des dons aux hommes. Ça, on voit ça dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8. Ça disait, c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, puis il a fait des dons aux hommes. Ce soir, on va voir la partie, il a fait des dons aux hommes. Suite à sa résurrection, tu sais que Jésus avait dit à ses disciples, quand il fallait qu'il s'en aille, mais qu'après ça, il était pour envoyer le Saint-Esprit. C'est ça qu'il a dit à ses disciples. Puis là, c'est là que la Pentecôte est venue, puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit, tout ça. Mais ça l'accomplissait ce qui est écrit là, dans ce texte-là, ça dit le fait des dons aux hommes. Ces dons-là, ils étaient dans le Saint-Esprit qui a été distribué. Le fait que Jésus soit mort, puis qu'il est ressuscité, il est monté en haut à la droite de Dieu, puis là, il a prié le Père, puis qu'il a envoyé le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit est venu, puis c'est là que les dons ont été distribués. On parle des dons ministères. On va voir ce soir les différents dons reçus parmi les chrétiens suite à la résurrection de Jésus. On voit que c'est des cadeaux que Dieu a fait de donner ça à son Église. On voit ça, on est rendu au verset 11, dans Éphésiens 4, le verset 11. Ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là, on voit là-dedans les différents dons que Dieu a donnés à l'Église. Des dons qui étaient importants puis qui étaient nécessaires pour que l'Église puisse grandir. Puis, on va juste faire un petit survol rapide là, avec le mot grec pour chacun de ces dons-là. Comme apôtre, le mot apôtre veut dire envoyé en avant, ou un messager, ou un ambassadeur. En réalité, aujourd'hui, on appelle ça un missionnaire. C'est des apôtres, c'est des envoyés, c'est des gens qui partent comme ambassadeurs, comme représentants. Ils vont implanter des églises, ils vont implanter des missions, mais c'est des missionnaires qu'on appelle ça aujourd'hui. Mais ça, c'était un don que Dieu a donné à des gens pour être des envoyés comme ça. Ils quittent tout ce qu'ils ont, ils quittent leur maison, ils quittent leur famille, ils s'en vont avec leurs épouses, leurs enfants dans un autre pays, puis ils accomplissent des œuvres que Dieu s'attendait d'eux. Mais ça faisait partie de un des dons ministères que Dieu a distribué, puis que ça prend dans l'Église. Parce que l'Église, on le sait, quand ça a commencé, il n'y a pas grand monde qui était sauvé. Mais il a fallu que Pierre se lève, puis qu'il prêche. Il y a eu 3000 personnes qui s'est converties. Ça a fondé l'Église de Jérusalem. Mais l'apôtre Paul, lui, qui est un autre apôtre, un autre envoyé, il est envoyé par le Saint-Esprit pour ouvrir des églises partout, parmi les païens. Fait que des apôtres, ça en prend. C'est des fondateurs d'églises, des fondateurs de missions. Puis il y a des différents sens dans le dictionnaire, biblique, c'est comme des délégués, des messagers, ou celui qui est envoyé avec des ordres. Parce que tu vois que les apôtres, ils ont reçu un appel, parce qu'il y a eu il y a des prophéties qui sont dites par des gens, comme Paul et Barnabas, qui étaient dans l'église d'Antioche. Ça dit dans un des versets, je pense au chapitre 16, dans le livre des Actes, ça dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire, il y a eu des prophéties même qui appuyaient que Paul et Barnabas, ils devaient partir. Ils étaient envoyés par Dieu. Mais ça, c'est des apôtres. C'est dans le sens du mot apôtre. Alors, après ça, il parle de prophètes. Dans l'Église, on parle de prophètes dans l'Église. Oui, il y en a eu dans l'Ancien Testament des prophètes qui annonçaient des choses pour l'époque où ils étaient, puis des fois, ils annonçaient des choses pour le futur, ou des fois, ils annonçaient des choses du monde invisible, parce que il y a des prophètes qui ont eu des visions, qui ont vu comme Isaïe, il a vu une vision de Jésus, puis il a vu des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui, puis qui avaient chacun six ailes, mais dans toutes les visions, ils ont révélé des choses cachées du monde invisible. Mais dans l'Église du Seigneur, il y a aussi des prophètes qui sont là. Le sens du mot prophète dans le dictionnaire biblique, c'est celui qui interprète des oracles ou autre chose cachée. Un prophète, un de ses ministères, il est dans l'Église, puis il reçoit comme des révélations des choses cachées, des choses qu'on ne sait pas. Ça dit dans Corinthiens que si un non-croyant rentre dans l'Église, puis quand tout le monde se met à prophétiser, ça dit que les pensées de son cœur vont être dévoilées. C'est qu'un prophète, il voit les choses cachées, sans comprendre toujours ce qu'il voit, parce que ça ne veut pas dire que la réponse, mais il y a des messages qui viennent de Dieu pour les besoins de ceux qui sont là autour de lui, ou comme le prophète Agabus dans les Actes, il a prédit qu'il y aurait une famine sous Claude, qui était Claude, c'est un gars qui régnait dans l'Empire romain, puis il y a eu une famine à cette époque-là par la suite. Mais le prophète a annoncé d'avance la famine. Fait que ceux qui ont le don de prophétie de la part de Dieu peuvent recevoir des paroles de Dieu qui sont pas nécessairement des enseignements bibliques, puis d'expliquer comme que je fais là. Ça, c'est plus une job de docteur ou de pasteur. Mais les prophètes, ils vont avoir des paroles de Dieu, mais c'est pour des besoins des personnes. Ils répondent à ce qu'il y a de caché dans les cœurs. Des fois, tu te poses des questions sur une affaire, puis quelqu'un qui a une prophétie, il peut avoir une parole pour révéler le cœur de l'autre, puis il dit, ce que tu es en train de penser, c'est telle affaire, puis ça veut dire telle affaire. Tu vois des réponses. Bon, mais ça n'en prenait dans l'Église pour bâtir l'Église. Puis Dieu, il s'est dit que quand Jésus est monté, Dieu a fait des dons aux hommes à travers son Saint-Esprit. Puis il y a eu des prophètes depuis le début de l'Église du Seigneur. Des évangélistes, ah oui, les prophètes, je pourrais rajouter, ils interprètent les oracles ou les choses cachées. C'est quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu. Puis il sert de sa bouche là pour de déclarer solennellement des messages qu'il a reçus par inspiration. Comme mettons, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a telle affaire qui est en train de se produire ou il va se produire telle affaire. Mais ça, c'est la job des prophètes. Puis ça, ça prenait de ces genres de ministères-là aussi pour faire avancer l'Église. On va voir les évangélistes. Les évangélistes, selon le dictionnaire biblique, ça dit, c'est un messager, un porteur de bonnes nouvelles. Parce que dans le mot évangéliste, t'as le mot évangile. Puis le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Fait que quand l'évangéliste, il répand la bonne nouvelle, il répand l'évangile, ça veut dire que sa job, c'est de parler du message du salut à tout le monde. Amener les gens à la repentance. Puis son message, c'est de parler de Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, puis de demander au monde de se repentir. Il annonce, dans le Nouveau Testament, il annonce le salut à travers Christ, mais c'est pas un apôtre. Il est pas un implanteur d'église, c'est quelqu'un qui évangélise. Il a ça comme don. Quand t'es un, comme mon frère, Michel, c'est un gars qui aime évangéliser. Il a ça, ce don-là. Lui, il l'a reçu, puis il m'en pratique. Tu le vois parce qu'il le fait. Les dons, là, c'est pas « je voudrais qu'un tel soit prophète » ou « je voudrais qu'un tel soit évangéliste ». C'est pas nous autres qui décident. C'est des dons que Dieu a donnés à certaines personnes pour être capable de le faire. Puis ceux qui le reçoivent, ils font ça comme si ça serait naturel. Les autres, ils seraient pas capables de prophétiser si t'es pas prophète. Mais si t'es évangéliste, ça va se faire naturellement de parler de Jésus. Pasteur, le mot pasteur, ça veut dire berger. Comme le berger, un berger avec ses moutons. Il y a soit un bouvier ou un berger, dans la parabole de celui qui prend soin et qui contrôle celui qui a été confié, puis il amène les gens à suivre la parole de Dieu. Un berger, c'est comme dans l'idée, il conduit les brebis dans de verts pâturages. Il nourrit ses brebis. Les paîtres, c'est les nourrir. Ça veut dire qu'un pasteur, il prend soin de ses brebis, il connaît les gens qui l'entourent, puis c'est les brebis que le Seigneur a mis là. Les brebis appartiennent au Seigneur, mais il est comme demandé par le Seigneur de s'en occuper, de donner la nourriture spirituelle. Puis ça peut être aussi donner la nourriture physique, mais en particulier, c'est pour nourrir spirituellement le troupeau. Ce qu'on fait à chaque réunion, quand on parle de la parole de Dieu, on est en train de se nourrir spirituellement. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait qu'on se nourrit de la parole de Dieu. Quand on parle de la Bible comme cela, on est en train de se nourrir. Dans une métaphore, aussi, c'est dans le sens, c'est un président ou un responsable ou le directeur de toute l'assemblée, tel que le Christ, c'est la tête de l'Église, puis il y a des surveillants des assemblées chrétiennes. Parce que faut pas oublier que le grand berger, le pasteur, le grand pasteur, c'est Jésus. Mais il a placé des personnes comme pour surveiller le troupeau. Mais ceux autres, c'est les bergers. C'est des pasteurs. C'est un don que Dieu donne à une personne. Tu peux être ancien par avoir les aptitudes à être un berger. Tu regardes les détails dans la parole, ça en parle. Si tu es capable d'enseigner puis d'expliquer la parole de Dieu, tu peux nourrir le troupeau. Tu peux être en train de nourrir le troupeau sans être nécessairement un pasteur aussi. En réalité, là, tu peux être une personne qui a plusieurs dons. Tu peux avoir plusieurs capacités. Parce que tu vois aussi que les apôtres t'es capable d'enseigner, puis les apôtres t'es capable d'évangéliser aussi. Fait que il y a des gens qui ont comme Mario Mascotte, c'est un évangéliste, mais il est capable d'enseigner. Fait que tu peux avoir plusieurs de ces dons-là donnés par le Seigneur. Un docteur, c'est pas quelqu'un qui fait des opérations. Un docteur, c'est dans le sens de maître. Pas maître qui est le maître qui a le contrôle ses autres, non. C'est un maître d'école, comme un professeur d'école. Un maître, un enseignant, celui qui explique la Bible. C'est le don d'être comme un professeur. T'expliques, quand ce gars-là, il explique toujours de A à Z quand il parle. Puis c'est simple à comprendre de cette façon-là. Parce qu'on va le voir dans d'autres idées là-dessus un peu plus loin, mais c'est un maître, comme Jésus c'était le maître, mais il a le sens maître d'être un professeur, un docteur, chargé d'instruire. Sa job, c'est d'expliquer comment, c'est quoi la Bible, c'est quoi les enseignements de la Bible sur les différents sujets. Comme qu'on fait à soi, c'est une étude biblique, mais en réalité, je suis en train de vous expliquer les différentes affaires. C'est comme être un job de professeur. Dieu m'a donné cette capacité-là, puis j'espère que vous comprenez quand que je parle. À la fin, je vais faire un examen, voir si vous passez votre diplôme. Tous ces ministères-là, dans la Bible, sont appelés des anciens. Si tout peut être, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ils sont appelés des anciens dans un passage. C'est des anciens parce que le mot ancien dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça parle des vieux, des personnes âgées. C'est des anciens. Mais un ancien, spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui a une maturité dans le Seigneur. Qui a les cheveux gris spirituellement parlant, quelqu'un qui est capable de... Il a de la maturité, il a vieilli, il comprend les affaires, puis il est capable de les expliquer. Fait que ça, tous ces ministères-là, dans une église, il était appelé des anciens. Ça se peut que quelqu'un soit appelé ancien aussi, puis qu'il ne fait pas partie d'aucun de ces dons-là. Qui n'est pas un enseignant, qui n'est pas un docteur, il n'est pas un pasteur, il n'est pas un évangéliste ni rien, mais qui est un ancien dans l'Église à cause de sa maturité. Mais tu lis dans dans Timothée, il explique c'est quoi que ça prend pour être un ancien, quels critères que ça prend. Puis règle générale, ça prend qu'il soit capable d'expliquer la sainte doctrine. Faut être capable d'avoir un minimum de compréhension biblique, avoir une sagesse de Dieu pour pouvoir expliquer puis emmener le monde à marcher avec Dieu. Dans Acte 20, le verset 17, ça nous dit « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » On voit que les gens étaient appelés des anciens, c'était toutes les personnes responsables avec différents de ces dons-là, là, les dons qu'on a mentionnés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ils avaient fait venir pour leur parler. Ils avaient fait venir, ça dit, les anciens. Le job aux anciens, peu importe dans quel ministère que tu as, le job, ils devaient travailler à prêcher et enseigner le troupeau. Dans 1 Timothée 5, 17, ça dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Puis le double honneur, dans le mot qu'il y a là, c'est double honoraire. Il parle d'avoir une paye en double. Pour ceux qui dirigent bien, les anciens qui dirigent bien. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il y a deux modes de prédication. Il y a de prêcher, la prédication, puis de l'enseignement, c'est d'expliquer. Prêcher, c'est plus des messages qui boostent le monde, qui encouragent le monde, des pep talks qui appellent des... le monde sont encouragés dans le message, tandis qu'un enseignant, ça va être plus de l'enseignement, c'est expliquer de A à Z en passant par B, puis C, puis D, puis il explique. Comment tu appelles ça à l'école, la matière, quand tu apprends toute la matière, c'est de la pédagogie, c'est tout... Il y a de la matière à transmettre, puis il explique tout pour que le monde comprenne clairement. Fait qu'il y a prêcher et enseigner, c'est deux choses différentes. Puis quand tu prêches, ça peut être des exhortations, ça peut être des révélations, tu as juste une révélation, tu fais juste expliquer ta révélation, c'est pas nécessairement expliqué comme tu aurais expliqué toute ta cause de, puis ça veut dire que, là tu en rajoutes, puis là tu as tout un enseignement qui peut aller autour de la... d'une prédication. Tu peux avoir une prédication sur un sujet, mais un enseignement sur un sujet, c'est plus élaboré. Fait qu'on voit que Dieu a donné des dons différents à des personnes différentes, puis il devait, ces anciens-là, exercer leurs dons dans l'enseignement, puis dans la prédication. On voit que l'enseignement puis la prédication a une grande importance dans l'Église. C'est important qu'on étudie la Bible. Parce qu'une église qui n'étudie pas la Bible, mais ils suivent toutes leurs idées. Tout le monde suit leurs idées, tout le monde pense que c'est correct. Puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce que Dieu dit. Pour comprendre ce que Dieu dit, il faut étudier, il faut regarder ce qui est écrit là, ce qui est écrit là, ce qui est écrit là, puis là, on passe à travers l'étude, puis après ça, on comprend comment ça marche. Puis là, on comprend le plan de Dieu, on comprend la volonté de Dieu, voyez-vous? C'est là qu'on en vient. Le mot « ancien », c'est comme je disais tantôt, il était appelé « ancien », mais il fallait qu'il prêche ça, mais c'est parmi les chrétiens, c'est ceux qui présidaient sur les assemblées, parce que normalement, l'ancien, le pasteur d'une église, aujourd'hui, c'est plus, ils appellent des pasteurs, mais les pasteurs, ils font aussi de l'enseignement. Les pasteurs peuvent évangéliser. Je sais que c'est pas tout le monde qui évangélise comme pasteur, mais moi, en tout cas, je vais faire de l'évangélisation, puis je fais de la prédication, puis je fais de l'enseignement. C'est Dieu qui m'a donné ces dons-là pour transmettre, puis tout ce qui est dit, c'est enregistré, puis c'est mis sur Internet. Puis c'est super, parce que ça permet à d'autres aussi de venir écouter. Aujourd'hui, on est béni pour ça. Ces gens, ils ont été équipés, puis placés en autorité sur le troupeau, par Dieu. C'est Dieu qui a équipé, il dit, il a fait des dons aux hommes. C'est Dieu qui a décidé de donner à un le don d'être capable d'enseigner. C'est pas nous autres qui s'improvise comme cela, parce qu'il faut vraiment que tu aies le don. Si le gars est pas capable d'expliquer les affaires puis se faire comprendre, c'est pas sa place. Même s'il voudrait, c'est pas sa place. faut que tu aies un appel de Dieu pour faire cela. Faut que Dieu t'appelle, là, tu vas faire ça, puis il te donne la capacité de le faire. C'est un don qu'on reçoit de Dieu. Puis, les gens qui ont été placés là en autorité sur le troupeau, ils sont aussi appelés, dans un autre passage, des évêques. Tu sais, l'Église catholique utilise ça, le mot évêque, mais c'est un mot qui est dans la Bible. Le mot, je vais vous revenir avec cela, dans Actes 20, 28, ça dit, parce que quand Paul, il a fait, quand j'ai dit tantôt, il a fait venir les anciens de l'Église d'Éphèse, il voulait lui parler. Suite après ça, quand il est en train de lui parler, un des détails qu'il lui dit, il dit, prenez donc garde à vous-même, Paul, il parlait aux anciens, là. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise en son propre sang. Là, là-dedans, on comprend plusieurs vérités dans ce verset-là. Premièrement, que l'Église appartient au Seigneur, c'est le Seigneur qui s'est acquis chacune des brebis. Ça appartient pas au pasteur. Une brebis. L'Église, chaque brebis appartient à Jésus. Mais c'est écrit que c'est le Saint-Esprit qui a établi évêque ces gens-là sur le troupeau. C'est dans Actes 20, 28. Ça veut dire que c'est pas eux les pasteurs qui ont décidé de devenir pasteurs de cette Église-là puis de mener le troupeau. C'est le Saint-Esprit qui a donné ces dons-là pour faire ce job-là. Puis ça dit, il les a établis évêques. C'est le Saint-Esprit qui les a établis évêques. Il parle à des anciens, qui sont peut-être des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, puis des docteurs. Ils sont tous des anciens. Puis ça dit qu'ils sont appelés évêques. Ils ont été établis comme évêques. Le mot évêque, pour savoir ce que ça veut dire, c'est gardien. C'est le mot gardien. C'est un préposé, un surveillant, un superviseur. Ça veut dire que celui qui est établi évêque sur le troupeau, il est établi superviseur, il est appelé surveillant. Il est le gardien du troupeau. Puis c'est le Saint-Esprit qui établit un gars qui a reçu le don de Dieu pour être le gardien du troupeau. Ça dit aussi pour paître l'Église du Seigneur. Paître, ça veut dire nourrir. Quand tu fais paître les brebis, tu les amènes dans de verts pâturages, ils mangent, ils broutent du bon gazon vert. Mais nous, dans l'Église, on broute de la bonne parole de Dieu. C'est le surveillant, le pasteur, ou appelez-le le surveillant, le superviseur, le préposé. Ce mot-là veut dire cela, un évêque. On est établi comme gardien du troupeau, puis on doit s'en occuper. La même chose qu'Adam avait reçu de Dieu. Adam, il devait garder le jardin puis le cultiver. Ben nous, c'est la même affaire. En tant qu'évêque, en tant qu'ancien, en tant que pasteur puis un de ces ministères-là, on est établi sur le troupeau pour nourrir, garder le troupeau puis le nourrir, d'en prendre soin. Est-ce que vous trouvez que je prends soin de vous? C'est un homme qui, ça veut dire aussi un homme qui est chargé de contrôler ce qui doit être fait par les autres, puis que ça soit fait correctement. Ça veut dire aussi un gardien, un intendant en chef, voyez-vous. C'est pour ça que dans un autre passage, ça dit qu'il faut être soumis aux anciens. Parce que les anciens, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ils ont été placés là par Dieu. Fait que si les gens qui sont dans l'Église critiquent, chialent, puis ils rouspètent, puis ils sont insoumis à l'autorité, c'est pas contre un homme qui se révolte, c'est contre Dieu qui a établi l'autorité. Fait que les autorités, il y en a dans le pays des autorités. Dieu a établi des autorités, puis nous demande d'être soumis. Puis dans l'Église aussi, il y a des autorités, puis c'est Dieu qui les a placées là. Mais ça nous dit, à nous, je vous donne ça pour vous rassurer, ça dit, vous n'êtes pas là pour dominer sur le troupeau, on est là pour donner l'exemple. Voyez-vous, un pasteur qui domine ne marche pas dans l'Esprit de Dieu. Un pasteur qui serait un dominant, contrôlant, puis qui cherche à amener tout le monde, là, puis à lui dire le cas de vérité, puis à vouloir crier même. J'ai vu des pasteurs qui criaient après le monde. C'est pas de Dieu. C'est pas ça, pas en toute la manière de mener les brebis du Seigneur. Tu es un responsable, tu dois surveiller l'Église du Seigneur. Mais tu la nourris, t'en prends soin. Pas en la battant. C'est comme un gars qui est marié, puis il bat sa femme. C'est pas, on n'est pas appelé à battre nos femmes, on est appelé à les aimer comme Christ a aimé l'Église. Mais dans l'Église, c'est la même chose avec les frères et sœurs. On est appelé à aimer les brebis, puis à en prendre soin. Ce sont des gens choisis, puis équipés, et établis par Dieu. Mais ils sont normalement aussi reconnus. Parce que même si c'est Dieu qui les a appelés, qui les a formés, puis qui les a établis pour faire ce job-là, mais ils sont aussi reconnus puis investis par les autorités de l'Église. Ça veut dire qu'une personne qui s'ajoute pour faire exercer un ministère dans l'Église, faut qu'il soit reconnu par les autres anciens de l'Église, puis par les autres brebis. C'est pas quelqu'un qui s'improvise à être le chef, puis que là, il mène tout le monde, puis il empêche les autres à pouvoir prendre leur place, puis que, tu sais, qu'il y aurait un contrôle d'un humain, autrement dit. Non, Dieu va en amener d'autres, des ouvriers, puis il va former d'autres personnes, puis il va les amener à prendre leur place, mais il faut, avant que soit établi, ça dit qu'on les exerce d'abord, puis qu'ils exercent, qu'après ça, il dit qu'on les mette comme à l'épreuve en les faisant travailler, puis après ça qu'ils exercent leur ministère. Qu'on les éprouve d'abord, ça dit, c'est ça, cherchez le mot, ça dit qu'on les éprouve d'abord, puis qu'ensuite ils exercent leur ministère. Ça veut dire qu'une personne qui dit qu'elle est appelée du Seigneur, faut qu'elle soit mise à l'épreuve. C'est pas qu'il arrive pas comme en bas sur un groupe sans avoir été mis à l'épreuve. Vous comprenez l'idée? Dieu, autrement dit, il appelle des gens, il forme des gens, mais il faut que les gens soient reconnus par les autres qui sont là. Il y a pas, c'est toujours dans la bienséance et dans l'ordre. Dans 1 Timothée, non, dans Tite, chapitre 1, verset 5, ça dit, Paul il dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » On voit que Tite avait été chargé d'aller dans les églises, d'écouter les gens qui sont là. Les gens, ils ont reconnu des personnes qui pourraient être potentiellement anciens dans cette église-là, qui développent le don d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, un de ces ministères-là. Les gens l'auraient reconnu. Puis là, après ça, ça dit que Tite devait établir l'ancien sur l'Église. C'est comme s'il y a une reconnaissance des dons, puis là, ils sont établis. Même si le don est déjà là, faut qu'il y ait une reconnaissance, que les autres le voient, puis qu'il y ait l'approbation de ceux qui sont en autorité sur ces églises-là. Ces personnes-là, qui exercent ces ministères-là, sont des dons à l'Église par Jésus. C'est Jésus qui a donné ces dons-là. Fait que si vous voulez vous plaindre de moi, parlez au Seigneur. C'est lui qui m'a donné le don. Puis ça, c'est pas pour embêter les chrétiens que Dieu a fait ça. Parce que des fois, on ose pasteur là, il est ici, puis il est ça, puis il fait ci, puis il fait ça. Puis là, le monde chiale. C'est pas pour embêter les chrétiens que Dieu donne des ministères. Mais ils sont donnés par Dieu pour l'édification. Puis ils sont donnés pour le perfectionnement des chrétiens. C'est que Dieu veut pas que les chrétiens restent au même niveau, spirituellement parlant. Il veut que tous les chrétiens grandissent puis qu'ils deviennent tous des soldats pour Jésus. Tous les chrétiens. Puis ça, les dons sont donnés pas pour écœurer le peuple, c'est pour les bénir le peuple, donner des instructions, faire grandir dans la foi, faire grandir dans la connaissance, dans la compréhension des choses de Dieu, pour que les gens deviennent solides, puis qu'ils soient capables à leur tour de transmettre les affaires aux autres. Dans Éphésiens, on est en train d'étudier Éphésiens. Là, j'ai nommé au chapitre 11, au verset 11, tous les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Puis au verset 12, ça dit, c'est pour, ils ont été donnés pour la job de perfectionnement des saints. Ça dit qu'ils sont donnés les dons par Jésus, là, pour le perfectionnement. Ça veut dire que quand vous écoutez des messages, vous êtes en train de vous faire perfectionner. Perfectionner, c'est-à-dire t'améliorer. T'augmentes ta connaissance, t'augmentes aussi ton savoir-faire. Tu vas savoir, tu vas comprendre plus comment ça marche, puis tu vas pouvoir vivre et expérimenter plus de choses. Tu vas approfondir ta relation avec Dieu quand tu entends des enseignements. Ça va même t'aider à voir plus clair sur des sujets. Ça fait partie du plan de Dieu. Puis ça, c'est pas nouveau en l'an 2020, là. C'est quelque chose qui existait dans le temps de Jésus, là. Suite quand Jésus a commencé, il prêchait à ses disciples. Après ça, les 12 apôtres ont prêché à l'Église. Après ça, les apôtres, ils continuaient à prêcher dans toutes les églises. Et après ça, il y a eu des anciens qui ont été nommés, qui étaient reconnus, puis qui ont continué à enseigner. Puis tout le monde, les églises s'accroissaient en nombre de personnes, mais ça s'accroissait aussi en connaissance, en fermeté, en obéissance, en sagesse, en tout ce qui est positif dans le royaume. Tout le monde grandit dans le Seigneur en se maintenant ouvert à apprendre, puis à apprendre, puis à apprendre. Si on se ferme les oreilles puis les yeux pour pas voir, pas entendre, « Oh non, le pasteur, je veux pas entendre qu'est-ce qu'il dit, je veux pas écouter qu'est-ce qu'il dit. » Tu grandis pas. Tu grandis pas, tu restes comme que t'es, puis en plus, vu que t'es dans une rébellion comme ça, tu vas rétrograder. Première nouvelle que tu vas savoir, « Oh ben moi, je change d'église, ou ben j'abandonne carrément l'église, puis il s'en retourne ailleurs, puis il retourne dans sa vie, parce que il est pas intéressé des choses de Dieu. » En temps normal, une brebis du Seigneur a soif. Il veut apprendre, il veut grandir. Quand tu es vivant spirituellement, tu veux pas rétrograder, tu veux monter. Puis c'est ce qu'on fait. Le perfectionnement que ça donne, les enseignements bibliques, ça nous fait grandir dans le Seigneur. Puis ça dit, il y a un perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Puis de l'édification du corps. Ça veut dire, en vue que les gens rentrent dans leur ministère, en vue de l'édification du corps, fait que le perfectionnement, l'édification pour que tout le monde rentre dans le ministère, c'est ça que Dieu veut, puis il sert des dons qu'il a donnés à des hommes. Pour que les chrétiens puissent être instruits et formés, puis pour qu'ils entrent dans leur ministère. Ça veut dire que vous avez tout un appel de Dieu, tout le monde. On a tous des dons différents, mais tout le monde devrait être en train de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Mais la meilleure des places pour commencer, c'est dans l'Église. Parce qu'il y a plein d'affaires qu'on peut faire, bénir les frères et sœurs, partager des choses, prier pour les autres, même évangéliser dans nos familles partout. Fait qu'on peut, sans être un évangéliste, tu peux évangéliser pareil, puis sans être un enseignant, tu peux expliquer des affaires pour aider les chrétiens. En réalité, le titre, c'est pas obligé qu'on ait des titres, puis on peut faire des affaires même si on n'a pas les titres. Je vais arrêter là pour ce soir parce qu'il y avait encore d'autres points, puis là, je vois que l'étude va être un petit peu plus longue que je pensais. Mais quand même, déjà à date, là, on peut comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on va à l'Église. Qu'est-ce qu'on on va là pourquoi? Mais il y a un temps de prière, de louange, mais il y a un temps aussi de la nourriture spirituelle. C'est de recevoir justement la nourriture. Le vert pâturage que Dieu veut nous donner. Puis quand la brebis, elle mange son bon gazon vert, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engraisse. Elle grandit. La brebis est dodue. Elle y a du poil qui pousse, puis après ça, on peut enlever sa laine. Bon, mais on a toute notre utilité dans l'Église. Puis pour que ça pousse, mais il faut manger. Puis pour manger, il faut être à l'écoute. Des images, mais c'est comique, mais c'est quand même des vérités. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, de nous éclairer sur qu'est-ce que les dons que tu as donnés dans l'Église, d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ces anciens-là, Seigneur, on te demande de leur donner ta sagesse, tes instructions, tes révélations. Ils ont besoin, Seigneur, que tu les conduises, que tu leur donnes le lait à donner aux brebis. Je te demande, Seigneur, de les bénir. Je te demande que tous ceux qui enseignent ta parole puissent être fortifiés par ton esprit, puis qu'ils marchent dans la vérité, qu'ils soient des exemples dans un caractère comme Jésus, de douceur, d'amour, de patience, puis qu'on puisse être des exemples dans ce monde. Je te prie pour eux et pour l'appel que tu vas mettre sur chacun, pour que les gens, qu'il y en ait d'autres qui réalisent l'appel que tu mets sur eux, puis qu'ils se sentent attirés à s'occuper des brebis, à prendre soin des brebis. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.